divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. Auditrices, auditeurs, bonjour, bonne rentrée à vous toutes et tous. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Libre Pensée. J'ai la grande joie d'accueillir Jean-Sébastien Pierre, président de la Libre Pensée. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour David Gozlan, merci.
Donc Jean-Sébastien, le congrès de la Fédération Nationale de la Libre Pensée vient de se tenir à Alizé dans l'Eure. Il a adopté d'ailleurs plusieurs textes et je voulais un peu pour cette émission-là de rentrée que nous revenions sur ces textes-là et nous allons commencer de but en blanc comme ça sur celui intitulé « Adresse du Congrès de la Libre Pensée au mouvement laïque ». Jean-Sébastien, pourquoi ce texte? Pourquoi avoir fait cette adresse-là?
Alors, tout d'abord je voudrais dire qu'effectivement, nous venons de tenir notre congrès à Alizé et que ça a été un congrès très ouvert de réflexion et de prospective pour l'ensemble de la libre pensée. Et le texte dont tu parles a tenu effectivement une grande place dans nos discussions. Remontons au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout le monde se souvient qu'il a rencontré la conférence des évêques de France au couvent des Bernardins. Et que dans cette conférence, il a tenu des propos extrêmement inquiétants suivants, selon lesquels il s'agissait de réparer le lien abîmé entre l'Église et de l'État. Ce qui est une déclaration relativement énorme, puisqu'elle remet en cause de fait et immédiatement la loi de 1905, qui est justement la loi de séparation des Églises et de l'État.
Et non de réparation.
Et non de réparation. Il n'est pas question de réparation, puisque le lien n'a pas été abîmé, le lien a été totalement rompu, et bien évidemment, c'est le contraire de ce qui peut être une logique concordataire dans beaucoup d'États. Il n'y a pas de lien organique du tout, entre aucune église d'ailleurs, et l'État. Par ailleurs, il a laissé entendre plusieurs fois, et notamment la question a été posée lors du grand débat, il a laissé entendre plusieurs fois qu'il fallait toiletter ou revenir sur la loi de 1905. Ceci a fortement inquiété les organisations laïques, la nôtre au premier chef, mais pas seulement, et en particulier, les organisations laïques se sont réunies le 28 février dernier, pratiquement toutes, à l'appel de notre association, à l'appel de la libre pensée, et ont pris en considération ces menaces, alors plus ou moins voilées, plus ou moins ouvertes, sur la loi de 1905. Plus récemment, le président de la République s'est livré à une rétractation orale en disant « Ma conception, c'est la loi de 1905 et rien que la loi de 1905. Elle se suffit à elle-même. » Certains s'en satisfont, mais à ce moment-là, nous avons immédiatement écrit à Emmanuel Macron en lui disant « Puisque vous avez affirmé qu'il n'y aurait strictement aucune modification de la loi de 1905, voulez-vous, s'il vous plaît, nous le préciser par écrit, en répondant à cette lettre, et en précisant par ailleurs que vous n'entendez faire aucune modification, ni législative, ni réglementaire. Il nous a été strictement impossible d'obtenir une réponse à cette question.
En espérant que le président écoute les ondes de France Culture ce matin, il entendra peut-être cette demande. Mais pourquoi justement s'adresser au mouvement laïque? Vous avez bien donné la chronologie de ce qui s'était passé, sachant qu'il y a eu aussi plusieurs appels en décembre dernier autour de la séparation de la loi de 1905, la loi de séparation des églises de l'État et pour sa défense. Pourquoi s'adresser au mouvement laïque?
Alors parce que tout le mouvement laïque est concerné par cette affaire. Il a d'ailleurs montré par une cohésion de plus en plus grande son intérêt, c'est le moins qu'on puisse dire pour la question. Et par ailleurs, la libre pensée est une composante, à mon sens, essentielle du mouvement laïque. Par bien des côtés, ne serait-ce que parce que c'est une association qui a été historiquement la porteuse de la loi de 1905 elle-même, avec Ferdinand Buisson, Aristide Briand et d'autres, et que bien évidemment, ça fait de nous, par un certain point de vue, la conscience du mouvement laïque, mais que la totalité du mouvement laïque est bien concernée par cette question et ne saurait se satisfaire de la situation de flou. Comme dit notre appel, notre adresse, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
C'est un mot de Martine Aubry repris.
C'est un mot de Martine Aubry, effectivement, que nous reprenons en l'occurrence. Mais ça veut dire, en tout état de cause, que le président de la République et l'exécutif refusent d'assurer qu'il n'y aura pas de modification de la loi. Il faut dire en plus que, contrairement à ces affirmations, nous avons appris, par d'autres associations qui ont été traitées de ce point de vue-là, de manière différenciée par rapport à les libres-pensées et d'autres associations laïques, qu'il existait un document qui s'intitulait « Des pistes pour toiletter ou rénover la loi de 1905 », que ce document avait été fourni aux, entre guillemets, autorités religieuses. Nous ne reconnaissons aucune autorité religieuse, bien entendu, mais chacun comprend ce dont il s'agit, et à un certain nombre d'associations. Nous jugeons, par conséquent, que la menace est toujours présente et que le mouvement laïque dans son ensemble, qui d'ailleurs était unanimement présent au congrès de la libre pensée,
c'est vrai,
peut parfaitement s'en saisir.
Alors, on le voit bien, d'ailleurs, par cette présence-là, ça montre bien aussi par l'action des fédérations départementales de la libre pensée qu'il y a un fond laïque dans ce pays. Il s'exprime d'ailleurs souvent quand la loi est menacée. Et on retrouve d'ailleurs ces aspects de ce fond laïque dans une récente brochure Argument, qui est une brochure que vous pourrez retrouver auprès de la librairie de la Libre Pensée sur quelques enseignements de l'histoire de la Libre Pensée et qui montre bien que la Libre Pensée reste vigilante. Alors Jean-Sébastien Pierre, on revient un peu sur la loi, quels sont les enjeux si la loi est changée et quels sont les équilibres qui peuvent être remis en cause?
Alors les enjeux sont, à mon sens, tout à fait considérables. Tout à fait considérable. Quant aux équilibres, il y a un équilibre fondamental, qui est l'équilibre d'ensemble de la société laïque de ce pays. Et de notre constitution, qui est une constitution de séparation. Rappelons quand même, par ailleurs, je recommande absolument la lecture de la brochure dont vous parliez il y a un instant. Cette brochure est extrêmement intéressante parce qu'elle couvre une période qui va disons de 1980 à nos jours, avec énormément de détails sur ce qui a pu séparer ou rassembler le mouvement laïque depuis. Mais revenons un peu sur les enjeux justement de la loi de 1905. Le premier, c'est la séparation. La séparation est essentielle d'un point de vue social, d'un point de vue politique et d'un point de vue de tous les points de vue. Parce que la séparation des églises et de l'État, c'est la liberté absolue de conscience pour tous les citoyens. Quant au non-financement, l'article 2 de la loi de 1905, le non-financement est souvent perçu comme une décision retranchante, si j'ose dire, retranchant des choses. Mais avant tout, c'est pour garantir la liberté totale des cultes et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Et si l'on commence à mettre des conditions à un financement, d'abord, c'est accepter le financement, ce qui est tout à fait contraire à la loi, et d'autre part, c'est passer d'une logique de séparation et d'égalité à une logique concordataire. Je rappelle que la logique concordataire, les concordats, ce sont les conventions particulières établies entre les États et les cultes. En France, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons lancé cet appel au mouvement laïque avec la perspective d'un déplacement central à Paris à une date qui n'est pas fixée, qui est mise en discussion par les différentes associations, mais qui sera discutée bien évidemment dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
Alors, Il y a un autre texte dans le Congrès qui a attiré mon attention. Il s'agit de l'appel solennel du Congrès de la libre-pensée d'Alizé intitulé « Sommes-nous libres ?». Alors, reconnaissons que le titre lui-même interpelle. Et du titre au texte, que pouvez-vous nous en dire? Pourquoi ce questionnement « Sommes-nous libres ?» Pourquoi ce texte-là?
On peut effectivement s'en étonner. On pourrait considérer aussi que cette question est éternelle. Sommes-nous en démocratie? Sommes-nous toujours en démocratie? Mais nous avons vécu une période marquée notamment par le mouvement des Gilets jaunes et par divers mouvements de grève. Je pense à la grève des urgences, je pense à la grève des corrections chez les professeurs du second degré, qui ont connu des réponses extrêmement brutales, tout à fait récentes, avec en particulier une répression de rue dans des conditions que nous n'avions jamais vues depuis des années et des années. Alors moi qui suis un ancien, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de 1968 et des années qui ont suivi, dans lesquelles la répression policière était extrêmement forte. Et là, nous avons connu une répression de rue extrêmement violente, avec des gazages lacrymogènes généralisés, avec l'utilisation d'armes offensives comme les LBD 40, oui, qui ont provoqué des blessés, des accidents graves, etc. Et en dernier épisode en date étant la noyade de Steve Maya Canicho dans la Loire à Nantes, qui est absolument en relation avec un épisode répressif très particulier contre la fête de la musique à Nantes, autrement dit contre une fête de jeunes, et qui a soulevé la jeunesse d'indignation.
Bien sûr.
Bien évidemment. Le deuxième aspect, c'est une censure politique, et des poursuites, je dirais, d'ordre politique vis-à-vis de toutes les voix qui s'expriment contre une certaine pensée unique. On voit aujourd'hui évoquer le devoir de réserve lorsque des fonctionnaires critiquent leur hiérarchie, des décisions gouvernementales, des choses comme ça, et on en voit même inculpés pour ces raisons-là. Or, le devoir de réserve est très largement une invention en ce qui concerne les fonctionnaires. Enfin, une invention pas totalement en ce qui concerne les fonctionnaires d'autorité, les préfets, etc., qui ont des casquettes avec des glands sur la tête, mais une catégorie bien particulière de fonctionnaires, ceux qui sont, comme on dit, au service direct de l'État. Pour les autres, le principe qui est dominant dans la loi de la fonction publique, c'est la liberté absolue de conscience et de parole. Et cette liberté de parole et de conscience, elle est attaquée jusqu'à des détails strictement nouveaux. Corinne Massiero, une actrice populaire, Capitaine Marlowe, tout le monde la connaît, qui a refusé d'aller à l'Élysée, s'est vu taclé extrêmement violemment par une bonne partie de la presse et même par des personnalités officielles parce qu'elle n'aurait pas le droit de se soustraire à une invitation du président de la République. On a vu aussi une journaliste littéralement accablée parce qu'elle défendait le droit des scientifiques au doute et à la mise en doute de toute chose, qui est pourtant un des principes fondamentaux de la science. Par conséquent, nous avons conclu que devant cette situation grave, et c'est la conclusion du texte de l'appel solennel du Congrès d'Alizée que nous avons adopté, il est totalement essentiel, et c'est la nature même de la libre pensée et de beaucoup d'organisations démocratiques, il faut défendre la liberté de conscience, la liberté d'organisation et la liberté de manifester, qui sont effectivement, c'est triste à dire, menacés.
Alors, ils sont d'autant plus menacés qu'on a vu aussi un président qui, cet été, lui, se permet de tacler d'autres puissances étrangères. Enfin, notamment, il a taclé la Russie sur le maintien de l'ordre et sur ce genre de choses. Lui-même qui, effectivement, a un triste bilan, vous l'avez rappelé, par rapport des manifestations, je dirais, de la loi travail, hein, parce qu'il était quand même en fonction, jusqu'à aujourd'hui, avec une répression extrêmement féroce. Alors justement, sur ces libertés publiques, comme sur la laïcité, on voit bien la libre pensée reste attentive, je dirais plus qu'attentive, elle reste militante. Et quelles sont justement les prochaines propositions sur ces terrains, à la fois de la laïcité et des libertés publiques ?
Alors sur la laïcité, tout d'abord, dans tous les départements, nous allons préparer une journée autour de la laïcité le 20 septembre, à laquelle nous allons convier, bien évidemment, tous nos partenaires dans tous les départements, de façon à... On ne va pas faire l'équivalent des manifestations aux préfectures que nous avons réalisées cet hiver, mais ce sera quelque chose qui sera une avancée vers un mouvement central, vers la capitale. Je rappelle d'ailleurs que cette journée du 20 septembre est la journée internationale de la libre pensée, qui célèbre l'entrée des chemises rouges garibaldiennes par la Porta Pia à Rome, abolissant les états pontificaux et par conséquent abolissant un régime de culte dans les institutions. Ça serait également une journée préparatoire à un congrès international qui va se tenir à Madrid en 2020 et qui aura pour thème principal la laïcité de l'école dans tous les pays. Dans la préparation de ce congrès de Madrid, nous allons tenir également un congrès très important à Marseille sur la laïcité des institutions, laïcité des élus locaux, etc.
Très bien, ben voilà un programme bien fourni que vous pourrez retrouver sur le site fnlp.fr puisque vous retrouverez toutes ces actualités-là. Nous arrivons à notre conclusion. Jean-Sébastien Pierre, merci beaucoup pour cette émission. Je remercie aussi à la technique Delphine Baudet, à la réalisation d'Annie Journaux. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain. Auditrice, auditeur, bon dimanche, au revoir.